La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Bon. Pierre-Yves, il y a des sujets intéressants ce matin quand même. Oui. Quand même, je regardais ça, là. Éric Asselin, qui à l'époque, au début de sa carrière, était à l'Autorité des marchés financiers, qui s'est en allé chez Norbourg, puis ça a été un des acteurs du scandale. D'ailleurs, pour les gens qui ont vu le film Norbourg, c'est le personnage incarné par Vincent Guillaume Otis. Et puis, on apprend ce matin qu'il est, semble-t-il, de retour dans la business.
Ouais. Et là, il y a deux affaires là-dedans. Effectivement, Éric Asselin, à l'époque, c'était l'espèce d'homme de l'ombre de Vincent Lacroix, donc celui qui s'occupait des transactions.
Le facilitateur.
Disons la personne de la police des valeurs mobilières qui était passée du côté obscur, selon ce qu'on peut comprendre dans le dossier et dans le film. Et là, ce matin, c'est parce que c'est son nom, hein, Éric Asselin. C'est pas Éric Asselin, c'est pas une grande nouvelle ce matin dans les journaux, mais bon, là, il utilise un autre nom pour faire une espèce de travail de courtage entre des gens qui ont des besoins financiers et des prêteurs privés. Bon, est-ce qu'il y a le droit techniquement, selon l'AMF, c'est ça qu'on enquête, parce qu'on dit, dans le fond, il faut avoir des permis pour faire ça, donc il y aurait une enquête là-dessus. Pourquoi ça fait les nouvelles? Ben, c'est parce que c'est Éric Asselin. Parce que c'est lui qui est un ancien de ce grand scandale de Norbourg, parce que c'est quand même un dossier qui est nébuleux, puis on peut laisser les autorités s'occuper de ça. Mais je me mets, puis là, j'essaie d'avoir un côté humain, là. Je sais que c'est bizarre de mon côté, très, très dollar. T'es Éric Asselin, t'as passé 15 ans, 16 ans de ta vie à payer le prix du crime économique dans lequel t'as été plongé. Et il faut que tu travailles. Puis là, ben, tu fais des... Tu essaies de travailler dans le domaine, j'imagine, que tu connais, c'est-à-dire les finances quelque part. Et là, ben, tu te retrouves avec une possibilité de travailler, mais que ton nom est brûlé. Et donc, tu utilises un autre nom. Alors ça, je peux comprendre l'aspect humain derrière ça. Maintenant, l'univers des prêteurs privés à des gens dans le besoin qui ont une deuxième hypothèque sur leur maison, Paul, c'est toujours un marché nébuleux pour moi. De dire qui sont ces personnes qui prêtent à des individus par des intermédiaires, qui sont ces personnes qui ont de l'argent à prêter avec des gens qui sont fortement à risque, qui sont ces gens qui ont tellement d'argent mais que c'est pas des banques là. T'sais, ça pour moi ça demeure quelque chose à observer puis à critiquer ou bien même à disons à enquêter. Mais dans ce cas-ci, ce qui est intéressant c'est ça un peu là. C'est Éric Asselin.
Ouais, mais c'est parce que d'abord un qui change de nom.
Oui.
En partant.
Hey, il y a un film sur ton nom. Il y a un film sur ton nom. Tu sais, tu peux plus travailler, là.
Je comprends. Mais en même temps, là, t'as une autre identité. Moi, comme client, j'ai-tu le droit de savoir si t'as des antécédents criminels?
Ah oui, là, t'as pas confiance, là, c'est sûr.
Tu sais, puis t'es dans une business étrange. On s'entend, là. C'est-à-dire une business où on a des gens vulnérables à risque qui vont chercher des hypothèques. Parce qu'ils sont pas capables de se financer ailleurs. Là.
C'est ça. Puis là, t'es dans le prêteur privé qui, eux, vont accepter que t'aies, disons, un score de crédit de 500 et moins, puis t'as prêté quand même quand t'as déjà des prêts hypothécaires sur ta maison. C'est sûr que, entre toi et moi, il y a des taux d'intérêt élevés, il y a des prêteurs privés derrière dont on connaît pas l'identité.
Non, mais moi, je me souviens d'un cas, je peux pas nommer les gens, là, mais ce sont des entreprises qui allaient chercher un financement à la banque, puis ils avaient besoin d'un 10, 15 % 20 % de plus, puis la banque refusait. Puis ils se tournaient vers des gens qui avaient bien du cash, qui te chargeaient un taux d'intérêt plus élevé que la banque.
Oui.
Puis qu'ils regardaient tes actifs, puis eux autres pensaient que c'était un bon deal.
Puis on dit dans cet univers-là que Éric Asselin jouerait le rôle d'intermédiaire entre les deux, une espèce de courtier. La question est, entre toi et puis moi, je suis bien d'accord, là. Quand tu as de l'argent comme ça, puis tu la mets à risque pour du 12, 15, 20 % de taux de prêt, t'es qui derrière? Cet argent-là vient de où? C'est-tu de l'argent que tu veux nettoyer? C'est-tu de l'argent en propre? Pourquoi toujours être dans les fonds nébuleux? Tu comprends? Mais ce qui me rappelle l'époque de Norbourg, Paul, moi j'étais au tournoi de golf du bureau. Je travaillais chez Ernst & Young à l'époque qui s'appelle EY, qui est devenu l'espèce de liquidateur de la firme Norbourg à l'époque. Et on est au tournoi de golf, puis là, il manque des personnes au bureau. Puis là, je dis au gars, hey, où est-ce qu'ils sont, un tel? Ah, oh, ils sont partis faire une saisie. C'est où ça? Chez Norbourg, oui. C'est quoi ça? Personne ne savait vraiment c'était quoi à l'époque. T'sais. C'était pour des gens, même des gens qui étaient dans l'Audi comme moi, c'est des fonds. Il y en avait tellement des compagnies dans ce temps-là. Mais ce qui est intéressant derrière ça, c'est le côté humain. De voir quelqu'un qui travaillait pour le gendarme, la Commission des valeurs mobilières du Québec, qui était enquêteur, puis que dans son CV, il passe d'enquêteur à vice-président finance, tu sais, d'un fonds d'investissement. Mais, c'était nébuleux. Déjà, ce saut-là est pas normal dans la vie financière.
Ben, je te dirais peut-être pas, mais en même temps, tu le vois dans le film, tu sais, quand t'es salarié, là, t'es
ah oui.
Puis tu vois ce monde-là faire bien de l'argent, ou en tout cas donner l'impression qu'ils font bien de l'argent puis qu'ils roulent avec...
C'est attirant.
Tu te dis, moi, là, peut-être que je connais ça autant qu'eux, puis je peux peut-être, puis je vais faire bien plus d'argent, m'a doublé, triplé mon salaire. Pourquoi je travaillerais encore pour la police des marchés?
Ben, regarde-moi, à l'époque, je me souviens, on faisait l'audit de compagnie, tu sais, puis c'était à l'époque, faut se rappeler, là. On venait de connaître la bulle techno, il y a des gens qui avaient gagné, perdu de l'argent, mais c'était une époque, l'Internet était là, mais il y avait quelque chose dans l'air. On sentait que on pouvait faire partie de quelque chose. On voulait être big, on voulait devenir comme aujourd'hui, hein. Il y a des cycles comme ça. Et là, on voyait des entreprises avec des chefs d'entreprise qui avaient des options d'achat d'actions, puis qui passaient à gauche une transaction. Puis là, tu voyais qu'il y avait des gens qui étaient multimillionnaires sur papier, puis tu disais, aïe aïe, pourquoi eux? Tu sais, pourquoi eux sont là? C'est quoi leur parcours? C'est fascinant quand même. Mmh. Tu sais, quand tu gagnes 32 000 par année, puis que la personne que tu es en train d'analyser gagne 32 000 par semaine ou par mois, c'est sûr que tu fais comme... C'est attirant. Et ça, ça va toujours rester la pod du côté payant. Mais il y en a des fois que c'est le côté payant Jedi, donc légal, et le côté payant, disons, plus obscur, un Sith ou un Darth Vader.
Ouais, ouais, ouais.
Vous écoutez La Chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Vous écoutez La Chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
Un petit mot sur les messages des banques centrales, là, c'est que les taux d'intérêt vont continuer de grimper.
Oui, parce que là, écoute, la Banque du Canada dit, écoutez, d'ici à la fin de l'année, là, attendez-vous encore à ce que ça monte, donc il reste deux réunions, donc le 26 octobre et le 7 décembre, donc votre taux d'intérêt peut encore augmenter, puis on est déjà à du 4, 5, 6 présentement sur nos taux d'intérêt personnels de banque au niveau des hypothèques. Après ça, on dit qu'il y a un point de rupture dans la chaîne d'approvisionnement, mais ce qui est intéressant après ça, c'est que tu as la Fed aux États-Unis qui confirme. Nous allons augmenter les taux, pas jusqu'à ce que l'inflation se calme, jusqu'à ce qu'on atteigne un 2% d'inflation. Puis pendant ce temps-là, Paul, le Fonds monétaire international dit, « Hey la gang, en passant, les banques centrales, c'est correct ce qu'ils font, mais on les encourage à continuer. » Alors nous, comme particuliers, il faut juste comprendre une chose. Ça ne s'abaissera pas tout de suite, la lutte à l'inflation. Donc, on peut encore penser que pour la prochaine année, on va vivre les conséquences, autant au niveau des taux d'intérêt que de l'inflation.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut. Money.
C'est 23.